Salut, Sébastien Carrière, bonjour.
Bonjour.
Alors, Sébastien Carrière, il y a plein d'informations concernant le Canada, notamment cette réunion qui s'est tenue jeudi sur la sécurité en Haïti. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur cette réunion qui avait été organisée par le Canada, la ministre Mélanie Joly, le ministre des Affaires étrangères?
Oui, donc c'était une réunion qui visait à discuter avec les partenaires internationaux, là, faire une mise à jour, si on veut. C'est un processus qui a commencé en janvier 2022 avec la première réunion. Ça faisait un bout de temps que les ministres ne s'étaient pas réunis. Donc, on jugeait opportun, là, à ce stade-ci, de l'évolution du dossier Haïti, de faire une réunion au niveau ministériel pour discuter des enjeux, notamment en matière de sécurité, en matière de dialogue politique, en matière d'aide humanitaire, faire le point au niveau des ministres et aussi donner une opportunité, une occasion aux différents partenaires de faire le point sur leur propre là, initiative en réponse à la crise. La réunion était présidée par la ministre Mélanie Joly, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général, Mme Maria Isabelle Salvador, a également fait une allocution d'ouverture, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Vitor Genius.
Donc, il y a beaucoup de réunions qui ont déjà été organisées sur Haïti, mais les résultats, on tarde à les voir sur le terrain, quoi.
Écoute, au niveau des résultats, bon, c'est certain, je comprends, moi, la frustration des gens et l'impatience des gens. Franchement, je partage cette impatience. J'aimerais beaucoup que les choses avancent plus vite. Ce que je peux vous dire, c'est que du côté du Canada, tout le monde travaille aussi vite que possible. Et on commence à voir des résultats concrets. Je donnerai un exemple. Par exemple, récemment, le Fonds multipolaire des Nations Unies, auquel le Canada a annoncé en fait une nouvelle contribution jeudi à la Réunion de 10 millions de dollars. Donc, ce fonds-là est en opération depuis déjà plusieurs mois. Il y a de l'équipement qui a été acheté et fourni à la PNH via ce fonds-là. Et il y a aussi le bureau de vetting de la PNH qui a été ouvert il y a 3 semaines environ, je pense, 2 ou 3 semaines. C'était ma chef de la coopération qui avait participé à la cérémonie d'ouverture avec les dignitaires de la PNH et des Nations Unies. Ça, c'est un résultat concret. On parle de vetting de la PNH dans toutes les conversations depuis plus d'un an. Et puis, voilà, le bureau est ouvert. Donc, notre contribution à ça, au fonds multiplier de 10 millions additionnels, porte notre contribution à 20 millions de dollars canadiens, qui est environ 15 millions de dollars américains, qui est essentiellement la moitié du budget du Fonds multipolaire des Nations Unies, qui est géré par le MEDIC.
Et il y avait aussi ces fonds qui avaient été annoncés par le Premier ministre Trudeau, je crois 90 millions. Quand est-ce qu'on va avoir ces fonds et qui va les administrer?
Donc, il s'agit en fait de 100 millions qui avaient été annoncés par le Premier ministre Trudeau. Les annonces de ce jeudi-là font partie là, de ce décaissement-là. Donc, le 10 millions additionnels pour le Basket Fund et 3 millions pour UNODC, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime. C'est un projet anticorruption, donc de UNODC qui a une valeur de 3 millions de dollars canadiens. Donc, c'est une annonce qui a été faite jeudi par la ministre. Et il y aura d'autres annonces à suivre. Pour ce qui est de la mise en œuvre au niveau des partenaires, il faut s'attendre à ce qu'on travaille avec des partenaires fiables et de confiance comme le PNUD, comme UNODC, d'autres agences des Nations Unies qui sont sur le terrain. Il y aura aussi là-dedans de l'aide directe à la PNH qui va être administrée probablement aussi via le PNUD. Là, on est en train d'essayer de trouver les mécanismes là, pour pouvoir faire ça de la façon la plus rapide et efficace possible tout en respectant les exigences là, de reddition de comptes du gouvernement du Canada.
Et concernant les équipements, il était question aussi que les équipements figurent concernant ces fonds canadiens pour la police.
Oui, absolument. Ça, c'est un travail qui continue à être en cours. Nous, on travaille, on a une unité là, de spécialistes en sécurité qui est à l'ambassade depuis déjà le mois de janvier. Une des tâches là, principales qu'ils ont effectuées depuis, c'est de travailler avec la PNH sur l'inventaire de ce qu'ils ont déjà, l'inventaire des besoins, l'inventaire de qui donne quoi, qui prévoit donner quoi pour s'assurer qu'on coordonne là, de façon la plus efficace possible les dons d'équipement. On va commencer là, le fonds multiplier, le Basket Fund, a commencé à faire des achats, nous-mêmes aussi, d'autres partenaires également. Mais tout ça est coordonné là, via cette unité-là, ce qui va permettre, là, on l'espère, d'être un peu mieux organisé comme communauté internationale pour répondre aux besoins de la PNH de façon là, efficace.
Juste avant d'aborder la question de ce bureau qui devrait être installé pour d'appui à la PNH, et concernant les nouveaux blindés, quand est-ce qu'ils arrivent?
Bon, au sujet des nouveaux blindés, je pense que la compagnie en a quelques-uns qui sont prêts. Je pense qu'ils sont en train de discuter là, avec le gouvernement ici et potentiellement avec nos forces armées ici au Canada et également avec l'aviation américaine pour voir si on peut organiser une livraison comme les précédentes qui ont lieu dans les mois depuis la première livraison conjointe le Canada États-Unis en octobre dernier. Je pense que les discussions sont en cours. Je suis pas exactement certain là, de l'état des véhicules. Là. Encore une fois, il faut poser des questions à la compagnie. Mais on m'a dit là, que bientôt, les derniers, la commande allait être complétée.
Il reste combien, M. l'ambassadeur?
Si je ne me trompe pas, il en reste 6. Mais pour être certain, il faudrait vraiment demander à la compagnie et à l'État haïtien, là, mais je pense que c'est 6.
Monsieur l'ambassadeur, l'un des sujets d'actualité, c'est l'annonce faite par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en ce qui concerne l'installation d'un bureau de coordination d'aide internationale à la police nationale qui doit être installé en République dominicaine. Alors, sur cette question, l'autre jour, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, il a aussi participé à la réunion. Est-ce que cette question a été évoquée?
Oui, absolument. La ministre en avait parlé dans son allocution là, d'ouverture qui était ouverte aux médias. Je pense qu'on peut même la trouver sur YouTube. Mais ce qu'il faut comprendre de ce bureau-là, c'est que c'est pas un substitut à une présence canadienne ou autre sur le terrain en Haïti. En fait, c'est un mécanisme additionnel par lequel nous, on cherche à toucher des partenaires qui, justement, ne sont pas sur le terrain en Haïti. Vous savez, il n'y a pas énormément d'ambassades étrangères en Haïti. Il y a beaucoup de pays qui couvrent Haïti depuis la République dominicaine. D'autres qui courent à partir d'ailleurs, mais la masse critique est en République dominicaine. Nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est toucher ces partenaires-là. Il y a déjà une coordination qui se fait avec les partenaires via des discussions entre capitales. C'est des discussions, puis ça, je le rappelle, c'est important, c'est vraiment du niveau technique. Là. C'est des planificateurs, c'est des gens là, qui travaillent dans l'équipement, gens qui font de la planification stratégique pour des gendarmeries ou des forces de police ou des forces armées. Donc, ces discussions-là ont lieu déjà environ une fois par mois entre capitales. L'idée, c'est de se rapprocher du terrain, de se rapprocher aussi des partenaires qui voudraient en faire plus, mais qui ne sont pas présents en Haïti, donc physiquement. Donc, on a identifié la République dominicaine. Ceci dit, on a bien entendu les critiques, les interrogations de part et d'autre depuis jeudi. On est en train de regarder comment on va ajuster le projet avec la République dominicaine, mais aussi avec les autres partenaires, à la fois régionaux et ailleurs dans le monde. Je m'attends à ce que plus tard cette semaine, peut-être d'ici le week-end prochain, là, on puisse apporter des précisions additionnelles. Mais il faut le répéter, là, c'est pas un substitut à quoi que ce soit, c'est pas un déplacement de ressources canadiennes ou autres de Port-au-Prince vers un autre lieu. C'est un mécanisme additionnel qui, pour le moment, se trouve en capitale et pour le rendre plus efficace et plus proche de la réalité du terrain, on cherche des moyens de le rapprocher du terrain. Mais ça donne rien de venir ici en Haïti, là où les partenaires qu'on cherche à rejoindre ne sont pas. Il faut aussi savoir que nous, on a déjà une composante de ce mécanisme-là. C'est pas un nouveau bureau, ça existe déjà. Les trois personnes qui ont été déployées à la demande du premier ministre Trudeau depuis le 11 janvier dernier en Haïti font partie de cette structure-là. Ils sont un peu les yeux et les oreilles sur le terrain de cette structure-là. Et eux sont toujours là, ils vont rester. Donc, il faut pas interpréter ça d'autre façon que on essaye de voir quelle est la meilleure façon d'atteindre un maximum de partenaires tout en étant le plus proche possible du terrain.
Ce que les gens disent, c'est qu'il y a une sorte de décroyance. Comment vous voulez aider quelqu'un, alors vous installez un bureau hors du territoire national?
Ben écoutez, je vous répète ce que je viens de vous dire. La pointe de l'iceberg de ce bureau-là est à Port-au-Prince depuis le mois de janvier déjà, puis ils vont pas s'en aller nulle part. C'est à Port-au-Prince qu'on se coordonne avec les Nations Unies, avec les Américains, ANL, avec les Français, avec les autres pays. Ça va continuer. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne plus de capacité à ce mécanisme-là en prenant des gens qui sont présentement dans les capitales et qui travaillent peut-être sur une douzaine de aussi, là, on leur dit, tu vas t'occuper seulement d'Haïti et tu vas être plus proche d'Haïti. Donc, si les gens veulent y voir une décroissance, en fait, c'est exactement le contraire. C'est de mettre plus de ressources au service d'Haïti. Et ces ressources-là, on ne va pas les mettre en Haïti parce qu'on cherche à rejoindre des partenaires qui ne sont pas en Haïti. C'est par ailleurs en diplomatie une pratique tout à fait normale d'avoir une ambassade dans un pays X qui couvre des pays voisins autour. Par exemple, il y a une vingtaine, sinon une trentaine de pays qui sont installés en République dominicaine et qui ont l'accréditation diplomatique pour Haïti simultanée. Nous-mêmes, le Canada, on a une centaine, on a 200 bureaux dans 100 pays. Dans beaucoup de pays, une ambassade va être installée dans un pays et avoir l'accréditation simultanée pour un, deux, trois pays autour. C'est tout à fait normal. Donc, c'est un peu même esprit qu'on fait ça.
Parce que dans l'opinion, on dit, mais pourquoi pas installer ce bureau au Cap-Haïtien, dans d'autres endroits du pays qui ont moins de problèmes en matière de sécurité?
Ben encore une fois, si on cherche à joindre des partenaires qui ne sont pas en Haïti, si on installe le bureau en Haïti, on va se retrouver devant le même problème. On est déjà en Haïti, on a déjà un bureau en Haïti, on a l'ambassade à Port-au-Prince. On a une unité de sécurité qui ne fait que de la liaison sécurité. Ce qu'on a besoin, c'est d'aller parler à des gens qui ne sont pas en Haïti.
Donc, vous dites qu'à partir de la semaine prochaine, peut-être qu'on va avoir plus clair et le Canada peut-être qu'on va identifier notre pays où placer ce bureau?
Comme je vous dis, on est en train de discuter avec les différents partenaires, d'avoir des discussions à l'interne aussi. Et dans les prochains jours, j'imagine d'ici la fin de semaine, là, on devrait pouvoir apporter des clarifications additionnelles.
Donc, c'est l'affaire de bureau. Donc, vous dites que le Canada, c'est pour une question pratique?
Oui, absolument. Écoutez, c'est le but du mécanisme, comme je vous explique, c'est de faire la liaison avec des pays qui ne sont pas présents en Haïti, tout en se rapprochant du terrain. Donc, c'est un équilibre. On pense que cette coordination-là va être plus efficace si elle se fait en personne auprès d'interlocuteurs qui travaillent à temps plein sur Haïti. Donc, c'est un peu l'esprit de l'initiative. Ça va continuer, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de déformation de l'information dans les médias, notamment sociaux. C'est pas un déplacement de quoi que ce soit. Au contraire, on renforce la structure, on renforce, comme on dit en anglais, le back office. Donc, on renforce ce qui est déjà en Haïti.
Comment le Canada voit-il ce refus clé de la République dominicaine?
Pardon, j'ai mal compris la question.
Oui, comment le Canada voit-il ce refus clair de la République dominicaine concernant l'installation de ce bureau à Santo Domingo?
On est en train de discuter avec eux, on va essayer de mieux comprendre la situation, et puis on va clarifier les choses, puis ensuite on va pouvoir prendre des décisions et puis faire des annonces en conséquence.
Alors, monsieur l'ambassadeur, concernant les sanctions, est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui seront sanctionnées? Est-ce qu'on va dire que la boucle est bouclée, non?
Non, nous, ça va continuer de notre côté. Avec les deux annonces de jeudi, on a maintenant 21 personnes sanctionnées. Il y aura d'autres annonces là, prochainement. On va continuer. On encourage les partenaires à faire de même. On pense que les sanctions, c'est un important changement systémique dans l'approche de la communauté internationale envers Haïti et que ça permettra de bâtir des solutions qui sont concrètes et durables pour le pays. Donc, ça va se poursuivre.
Donc, les sanctions, selon vous, ça donne des résultats?
Oui, moi, je pense que oui. Ça donne des résultats. Encore une fois, je comprends que les gens voudraient des trucs spectaculaires là, et rapides, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un changement d'approche à long terme. Donc, il faut donner le temps aux sanctions de donner des résultats. On est en train de regarder aussi la mise en œuvre des sanctions, est-ce qu'il y aura des saisies, ainsi de suite. C'est des dossiers juridiques, c'est extrêmement complexe, extrêmement long. Il y a des avocats dans tout ça. Donc, on doit laisser les choses se décliner. Je suis persuadé, moi, que ça va nous amener des changements positifs pour l'avenir d'Haïti. On attaque l'impunité, on l'attaque de l'extérieur. Il va falloir l'attaquer de l'intérieur aussi. Le modèle de fonds multibarrière des Nations Unies pour la sécurité, le PNUD a développé un modèle similaire pour le secteur de la justice. Ils ont fait des propositions très intéressantes récemment. Nous, le Canada et d'autres barrières, on est en train de regarder ça aussi, parce qu'il va être important, évidemment, de remettre sur pied le système juridique haïtien si on veut arriver au bout des choses.
Alors, donc vous dites que les sanctions vont se poursuivre?
Oui, absolument.
Alors, pour terminer, monsieur l'ambassadeur, que pouvez-vous répondre à l'opinion publique qui estime qu'il y a un double standard de traitement donné à l'Ukraine et le traitement donné à Haïti?
On m'a déjà posé cette question. Moi, ma réponse, c'est que c'est deux situations qui sont complètement différentes et je vois pas pourquoi on comparerait les deux. L'Ukraine est un pays membre des Nations Unies qui a été envahi militairement par un pays voisin. C'est une situation complètement différente qui exige une réponse complètement différente. Et je pense qu'il est simpliste et malheureux d'établir des comparaisons entre les deux réponses. Je vous rappellerai qu'au niveau de la réponse canadienne en Haïti, on n'a pas lésiné sur les moyens. 32 millions pour la PNH en 2022, 100 millions cette année. On commence à avoir des résultats concrets. On a aidé à livrer les véhicules qui avaient été achetés commercialement, une transaction avec laquelle le gouvernement du Canada n'avait rien à voir. Donc, chaque occasion qu'on a de donner un coup de main, on le fait. On espère que d'autres partenaires vont faire la même chose aussi et que tout ça va se faire en coordination pour arriver à des résultats durables pour Haïti, pour le peuple haïtien.
Merci beaucoup, Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada en Haïti. Merci beaucoup.
Plaisir.